Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, la deuxième nuit de l'After en direct des États-Unis pour cette sixième Coupe du Monde de notre histoire à nous dans l'After qui fête ses 20 ans cette année. Nous sommes en direct de notre studio américain avec vue sur le stade de la finale ici à New York. L'After est en direct sur RMC, l'After est en direct sur la chaîne YouTube également jusqu'au bout de la nuit avec tout à l'heure Karen Galli qui prendra la suite avec le match qui opposera les États-Unis au Paraguay un petit peu plus tard. Ce sera tout à l'heure à 21h heure locale, à 2h du matin, donc heure française. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Et l'américain de l'équipe de l'After, Kevin Diaz, le vrai américain, Kevin Diaz est là. Salut Kevin.
Hi everyone.
L'événement, bien sûr, c'est l'entrée en lice du Canada et des États-Unis. Oui, eux, ils maîtrisent au moins deux mots, c'est bien. C'est l'entrée en lice du Canada et des États-Unis. On va en parler, bien sûr. On va analyser le match Canada-Bosnie dans quelques secondes. Et puis l'équipe de France sera au programme. Doué et Barcola, qui va jouer face au Sénégal, qui sera le quatrième attaquant, puisqu'il semble qu'on s'oriente donc vraiment pour de bon vers une attaque à quatre. On débattra un petit peu plus tard également du premier gros match de cette Coupe du Monde. C'est Brésil-Maroc. Demain, on ira dans les deux pays tout à l'heure, notamment avec Demetrius Ferreira, l'ancien joueur de Marseille et de Bastia, qui nous parlera de la sélection brésilienne. Daniel veut parler un peu tactique ce soir. Est-ce qu'on peut tirer des leçons tactiques des Coupes du Monde? On débattra ensemble. On a le temps, on a trois heures devant nous là ce soir. Et puis on aura également un peu plus tard Mathieu Rosenbaum, le prof de maths à Polytechnique, qui sera de retour dans l'After, le meilleur ami de Paulo Breitner.
C'est à quelle heure ça?
Il sera, ce sera sans doute aux alentours tout à l'heure d'une heure du matin.
Même si ce sera le moment où je lâcherai prise, malheureusement.
Ah, pour quelle raison? Parce que en maths, t'es nul?
Ben oui, voilà. Je pense que tout le monde est au courant. Donc c'est le moment. Ce sera un moment de souffrance pour moi. Je me concentrerai.
Tu comprends les stats quand même?
Pour l'écouter. Oui, mais lui, il va un peu plus loin que ça.
Alors tu lâcheras pas prise pour une raison simple, c'est que tu as les infos sur Lens à donner et on va aussi parler de Lens. L'actu Ligue 1 sera au programme, notamment l'arrivée de Top Moller à Lens. Paulo Breitner sera là.
Dino Top Moller. Ça doit être un super dentiste.
Quand j'ai appris la nomination, je me suis dit première blague Gautreau.
Il la lâchera, ouais.
Sur le. Voilà.
Le problème, en fait, ce qu'il faut se demander maintenant, c'est combien de fois dans la saison il la lâchera.
Je m'interdis de la refaire.
Très bien. Bon, alors, au moins, celle-là est rangée, ça va, tout va bien. On peut y aller.
Voilà. Et puis les variantes du type, il s'est cassé les dents sur la défense de trucs.
Ça, je te laisse. C'est toi qui.
Genre, il va prendre la couronne de meilleur entraîneur.
C'est fait.
On m'a dit qu'il aimait les crocs, en tout cas. Voilà.
Bon, voilà le programme. Le 32-16 est ouvert. Le numéro WhatsApp est là également. 06-12-424-424. Nous sommes là dans notre studio magnifique.
Après,
à ma droite,
que
le stade.
Soit
à ma gauche, Palatane.
Cette année.
Bravo. T'as réfléchi à celle-là. Celle-là, il y a réfléchi. T'as le côté Gilbert, hein. Mais c'est pas grave.
Les gars, votre journée américaine?
Ah, bah écoute, petit tennis ce matin. Face à un gros joueur, hein, un gros joueur, un certain DR.
Ah. T'as perdu?
Non, j'ai pas perdu. Mais bon, on a fait une petite formule entraînement. Et je laisse Daniel.
En tout cas, on a trouvé un cours
extraordinaire. Il ne faut pas trop en parler.
Jusqu'à ce qu'on se fasse dégager, ouais. Manu Militari. Ouais. On a trouvé un cours
extraordinaire.
Dans une, on peut lui dire, on ne donne pas le nom.
Ah oui.
On peut dire, mais c'est à l'intérieur d'une fac.
Ouais.
Au bord
c'est
de
loin.
L'eau.
C'est un peu loin.
La vue
rouler
est magnifique.
Un peu, mais c'est incroyable.
On avait repéré les lieux avec Max Chano hier. On est arrivé, on s'est garé. Ouais. Sur le parking, comme tranquille. Si on était, comme si on était les dirigeants de la fac. Ouais, on est descendu sur le cours qui est pas fermé.
Exactement.
On est magnifique, dans le... magnifique green sur le
rebond. Donc, en gros, vous l'avez fait à la française.
Si on nous demande,
on est croquant, quoi.
Si on nous demande, bravo, on fait partie
du
banc.
Il y a un mec qui s'est approché pour nous regarder. Il était côté Kevin. Ouais. J'ai dit, oh putain, il va demander à Kevin qui on est, qu'est-ce qu'on fait là.
Punaise,
en fait, le mec est juste venu voir, a fait, oh, bien joué.
Ouais.
J'ai dit, super, casse-toi maintenant.
Non, mais c'est exceptionnel. On est rentré. Il y a un mec qui nous a regardé. Je lui ai fait un regard.
C'est scandale ce que vous avez fait.
Vous inquiétez pas. On est des anciens de la fac. On est des anciens de fac. J'étais prêt
fac,
à
évidemment, fac US absolument magnifique. Manucuré, le gazon, ouais. Les briquettes rouges, ouais. Sublime. Le cours pas fermé.
Ouais.
Voilà, on a fait alors, un gars, travail d'orfèvre.
Ouais, exceptionnel. Un petit déj quand même, un petit déj le midi avec Max Chano.
Je n'aimerais pas que les gens qui nous écoutent se disent les mecs de l'after ils sont sympas, mais leurs vacances aux États-Unis, je m'en fous.
C'est pas du tout les vacances parce que quand il a fallu bosser pour voir les matchs, on est là.
Exactement.
Juste petite anecdote, Gilbert. Hier, donc j'étais à l'antenne avec.
Parlons-en du match.
J'étais à l'antenne avec l'équipe de Génération After avec Walid et Nico, et donc on a raconté un petit peu notre trip aux États-Unis. On a eu des dizaines de messages ce matin en mode mais les gars, mais continuez de nous raconter parce que ok, les matchs de la Coupe du Monde c'est bien, mais l'after à New York c'est magnifique.
Je rappelle que la communauté française à New York ici peut venir nous voir, hein, évidemment, si vous nous écoutez en podcast ou en direct sur les applis RMC, ça marche.
Alors ça, c'est complètement fou là. Je viens d'apprendre. Je sais pas s'il faut confirmer l'information. Il paraît que Alain Stopmoller a envie de recruter Dante, mais je suis pas sûr.
Mais ouais, pas mal.
Canada-Bosnie, un partout.
En fait,
premier point.
On veut enfoncer Flo. On veut lui en mettre plein la tronche pour qu'il mesure à quel point il est loin.
Ouais. Premier point pris.
J'ai été le précurseur et je me suis arrêté sur la première.
Premier point pris dans son histoire par le Canada à la Coupe du Monde. Vous avez fait 0 point, rappelez-vous, il y a 4 ans. On se souvient aussi qu'en 86, les pauvres.
Les deux fois, ils sont dans des poules de dingo.
Celle-là
sera une poule.
Qatar-Suisse.
Celle-là, ils vont en sortir de celle-là.
Historiquement, ils ont été dans des poules.
Et alors, puisque tu parles de ça, moi, je les avais trouvés intéressants il y a 4 ans, où ils proposaient un football qui allait vers l'avant, un football protagoniste, alors que, certes, ils ont de la détermination, une belle envie, une technique collective intéressante, mais individuellement, il y a pas mal de lacunes. Moi, il m'avait plu il y a 4 ans. D'ailleurs, c'est là que, par exemple, Koné m'avait semblé être un bon joueur. Derrière, il n'a pas réellement confirmé que Joe David, qui encore ce soir, n'a pas fait un gros match, mais je l'avais trouvé bon. Il y avait quelques joueurs qui m'avaient plu il y a 4 ans. En tout cas, bon, il y avait Alphonso David qui était un petit peu au top à ce moment-là.
Qui était forfait ce soir.
Qui n'est plus là.
Il est là, mais là, il était forfait.
Mais qui n'était pas là ce soir dans le match. Donc. Mais ce soir, écoute, ils m'avaient séduit dans leurs intentions il y a 4 ans. Même chose ce soir. Ils jouent contre la Bosnie qui, a priori, a, en tout cas techniquement, un petit peu plus de ballons. Ça devrait être des joueurs meilleurs. Mais je n'ai pas du tout eu cette impression dans le match. Moi, la Bosnie m'a semblé être une équipe qui était là par hasard dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est par hasard qu'ils sont là. Ils ne devraient pas y être. Ils ont rien proposé.
Ils ont mérité d'y être, ils sont qualifiés, Daniel.
Ouais, mais enfin, ils devraient pas y être.
Voilà.
Ils ont proposé
un vieux
bloc bas bidon. Ils ont mis un but de raccro. Derrière, ils ont fait que attendre. Ça aurait été un braquage de gagner le match parce que le Canada, moi, m'a intéressé. Je répète, oui, devant, ça a pu paraître confus. Ils ont raté beaucoup d'occasions, mais moi, ils m'ont plu. Ils m'ont plu parce que devant leur public, ils ont réussi à faire de ce match un match intéressant qui a emballé le public canadien. Évidemment, ils ont égalisé, c'est largement mérité, mais moi, je pense qu'ils méritaient carrément de gagner le match. Et je pense qu'ils sortiront de cette poule qui est pas très compliquée quand même.
Moi, je suis pas aussi enthousiaste que Daniel parce qu'effectivement, ils ont été supérieurs et effectivement, ils ont emballé le match. Mais moi, je regarde et sur la progression, puisqu'on les voit arriver dans le concert des nations et notamment avec Jesse March, là, c'est intéressant depuis qu'il a repris l'équipe. Malheureusement, individuellement, il est pénalisé par les erreurs de technique individuelle.
Si, ils vont pas les inventer, les joueurs Flo.
Non, mais d'accord, mais Joe David, par exemple, j'ai l'impression qu'il régresse maintenant de mois en mois.
C'est Casper, David.
Mais non, mais David, il a raté une occasion qui est un péno, en fait. C'était une occasion à 9 mètres. Il
sort d'une mauvaise saison.
Et il fait pareil.
Je sais pas dans quelle mesure ça a eu un impact, le fait de jouer aussi peu cette année.
Physiquement, voilà, je l'ai pas trouvé bon dans le rythme, je l'ai pas trouvé bon dans l'efficacité. Non, ce que je veux juste te dire, c'est que, ok pour les intentions, ok pour dire que les autres ont attendu la Bosnie très bien, mais derrière tu dois être plus juste dans tes conduites de balles, dans tes contrôles, dans tes passes. C'est ça qui a manqué. On est en Coupe du Monde, il faut qu'on ait une exigence un petit peu quand même. Et là moi je
tu vas pas être exigeant sur une Coupe du Monde à 48 où tu vas avoir un niveau qui va être affaibli par rapport à
Canada. C'est pas Curaçao, je trouve que là j'ai vu encore trop de déchets techniques.
Non mais c'est sûr, mais
dis-toi une chose, c'est que si tu pousses cette exigence, je veux bien, pourquoi pas, tu vas quand même te retrouver cette année avec en 16e de finale des équipes faiblardes qu'on n'aurait pas eu à une autre époque.
Mais c'est un problème.
À un moment, avec le problème, t'as deux solutions. Tu peux pas les régler, les problèmes, parce que tu peux pas le régler. La Coupe du Monde, elle est comme elle est cette année. C'est 48 avec les troisièmes qui vont sortir. Donc, en gros, j'ai envie de te dire, va falloir s'y faire, hein.
Moi, au service Kevin Diaz.
Flo, j'entends ce que tu dis. Maintenant, si tu as ton iPad là, si tu peux me trouver le classement UEFA du Canada, le classement FIFA pardon du Canada, c'est pas top 25. Hein, donc attention, ça reste une équipe d'un pays où il y a très peu de pratiquants, où hiver il fait moins 45.
C'est pour ça que j'ai trouvé formidable ce qu'ils ont proposé ce soir.
Non, mais franchement, t'es à domicile, ils ont pas eu peur, ils ont joué vers l'avant face à une équipe de Bosnie qui est vraiment très embêtante, avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont cette qualité aussi. Pour un peu vicier le match sur la deuxième partie à partir
quand
du moment
tu donnes
où
le maximum, je peux pas taper sur
exactement,
une équipe qui donne. Là où en fait, en revanche, je te rejoins, c'est que si dans une équipe t'as des joueurs leaders qui jouent dans des grands clubs, qui ont une cote, qui sont des attaquants, qui ont coûté cher, sur qui on a investi, donc on en revient à Joe David, lui il doit être le leader.
Mais même
et quoi,
lui,
équipe,
même lui, il est surcoté.
Exactement comme il y a 4 ans, Alphonso Davies, qui est vraiment le joueur qui tirait cette équipe.
David, il est surcoté. C'est un bon joueur de Ligue 1, mais on voit que
surcoté. Dans un match pareil, tu dois.
Il y a Koné aussi au milieu qui peut.
Tu dois le voir plus. Oui, mais au final, Jesse Marsch, on connaît cet entraîneur. C'est un entraîneur qui a envie que l'équipe dicte le tempo, mette du rythme, aille vers l'avant. C'est du football en mouvement. Du football de pressing aussi, c'est ce que j'ai vu
ce soir.
Football
moderne,
c'est ce que j'ai vu ce soir.
Après, comme je disais,
avec les limites, les lacunes, avec
quand ils font rentrer les deux costauds devant, ouais, c'est un football qui ressemble pas à la Première Ligue, ressemble pas à l'Espagne. C'est un football qui ressemble à la Championship.
Absolument.
C'est un football un peu britannique, avec.
Mais on
du
aime
jeu
aussi
direct.
Ça dans une Coupe du Monde, c'est des styles différents, des cultures différentes.
C'est un peu comme, alors à moindre mesure, enfin. Bien meilleur, mais c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. C'est des footballs, un peu à
l'ancienne.
Canada,
c'est au-dessus. Hein.
C'est au-dessus.
C'est pour ça.
C'est au-dessus, mais à la base, entre le Canada
mais
et l'Australie.
Ces pays-là ne fabriquent pas des joueurs qui, vulgairement, tripotent le ballon.
Ce que je veux te dire,
c'est pas ce genre
ils fabriquent rien, parce qu'en fait, les Canadiens comme les Australiens, les trois quarts, c'est des gars qui ont grandi dans le Royaume-Uni, ailleurs.
Leur culture de ballon.
Ils sont formés ailleurs, en fait.
Combien même, c'est pas une culture sud-âme, c'est pas une culture espagnole.
Pourquoi
c'est pas du tripoteur de ballon.
Mais pourquoi c'est pas du tripoteur de ballon? Parce que aujourd'hui.
Mais c'est culturel, mais chaque pays,
tu vas à Central Park, ça joue au baseball, ça joue pas au football. Et demain, tu vas à Montréal, il n'y a pas de joueurs qui jouent dans la rue. Qui jouent dans la rue. À l'école, ça joue pas au football non plus. À l'école, c'est d'autres sports. Je te dis, il fait moins 45 en hiver, tu vas pas jouer au foot dehors. Donc, forcément, t'as des joueurs qui sont des athlètes d'abord.
C'est vrai.
Qui sont souvent, plus, à la britannique, ça joue direct,
la compagnie championship. Sauf que moi, je te dis quand même que Jesse Marsch, depuis qu'il est arrivé, il essaie de faire progresser cette équipe-là. On nous avait annoncé une équipe en progrès, et que je te dis, tu retrouves finalement les mêmes qualités, les mêmes lacunes. Et moi, je dis ok,
les
intentions
toujours,
sont
c'est
là.
Culturel.
Non, ces équipes-là, elles peuvent progresser.
En fait. Tu veux faire quoi en fait?
Parce que
ils ont déjà beaucoup progressé. Aujourd'hui, ils ont
le niveau des joueurs où ils évoluent et tout. Ce soir, ils te livrent une presta.
Effectivement, tu l'as vu qui joue à la Juve. Tu n'avais pas des attaquants qui jouent à la Juve il y a quelques années
David, je te l'ai accordé, mais tu le sais très bien, parfois que les clubs se trompent dans les transferts et que Joe David à la Juve, et c'est probablement un truc qui est pas normal qui aurait peut-être pas dû arriver, mais le Joe David de Lille, ne serait-ce que celui-là, je le vois pas ce soir. Mais je te l'accorde. Lui, il doit donner plus. Les autres.
Intentions, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux juste dire sur la progression globale.
C'est du football généreux.
Année, au bout de 10, 15, 20, 25 ans, c'est comme si les États-Unis, tu disais, non, ils sont comme il y a 25 ans. Ils ont pas bougé.
Le Canada, ça n'existait pas.
Un mot de la Bosnie.
Mais rien à dire sur les Bosniens. Qu'est-ce qu'ils font là, déjà?
Je sais que t'es vexé,
Les Bosniens, faut quand même rappeler,
c'est terrible, affligeant.
Non, mais on est d'accord. Mais il faut quand même rappeler que c'est un tout petit pays, où pour le coup.
Et que c'est leur première Coupe du Monde, et que c'est un événement magnifique pour eux.
Quand t'avais Pjanic, Dzeko à son top.
Évidemment, les Bosniens, ils ont toujours offert des très grands footballeurs.
Franchement, c'est extraordinaire. Ne tirez pas sur le Pjanic.
Et là, eux, pour le coup, culturellement, ils ont toujours proposé des vrais joueurs techniques.
Là, ça joue dans la rue.
Là, ça joue, c'est vraiment du.
Même là, en étant bloc bas, t'as vu sur les prises de balles. C'est supérieur techniquement, individuellement, sur les skills.
C'est assez pauvre. Il y a pas beaucoup de très bons joueurs dans cette équipe, quand même.
Tu vois, le travail sur la technique individuelle, juste pour.
Mais ça, c'est culturel, ça.
J'ai compris. Je te dis juste, en général, dans le foot, partout, c'est important de savoir que quand tu formes des jeunes et des joueurs, partout que tu sois dans le monde, tu peux aller un peu plus sur ça.
Tu peux ne pas les former avec les mêmes livres.
Effectivement, ils sont.
même condition.
Ils ne forment pas avec les mêmes livres.
Ils sont plus
c'est ça qui est complètement dingue. Moi, j'ai joué avec des Bosniens, notamment aux Pays-Bas, et ils ont tous cette technique, en fait. Ils ont tout ça, le contrôle. Par contre, souvent, il manque un peu d'explosivité, ça manque un peu de vitesse. Ils sont
ça aime jouer avec un tempo un peu plus lent que.
Et par contre, c'est toujours des joueurs de caractère.
Et là, le Canada, justement, en mettant souvent un rythme assez élevé, ils les ont empêchés de sortir.
Et juste un point de comparaison avec ce qu'on a vu hier. Il y a un truc qui est commun aussi à quelques nations, comme la Corée du Sud, par exemple, le Canada. C'est un manque de vice, et en face, tout le vice
est culturel.
Existe.
C'est culturel.
Non, mais, okay. Non, mais
c'est énorme dans la Coupe du Monde.
Je suis d'accord avec toi.
Un constat qui va être important pour la suite, parce qu'hier, la Corée du Sud, par exemple, pour moi, qui aurait dû battre aussi la République tchèque plus facilement, a été menée.
Ils ont gagné, ils ont dominé le match.
Et en face, t'avais le vice, t'avais le.
Quand le vice est juste l'allié de la faiblesse, comme c'était le cas des Tchèques hier, parce qu'en gros, ils étaient en dessous, comme la Bosnie était en dessous ce soir, ça veut dire qu'il te reste pas grand chose. Mais il n'empêche que maintenant, puisque tu enchaînes là-dessus sur les matchs d'hier, puisqu'on en est à notre troisième match, ça y est, je commence un peu à m'exciter sur la Coupe du Monde. Je t'avoue qu'en voyant ce que j'ai vu là encore cet après-midi et tout, j'ai maintenant envie de vraiment voir les grosses équipes dans cette Coupe du Monde. Là, j'ai envie que ça s'excite un peu. J'ai envie qu'on avance un peu maintenant.
Demain, Brésil-Maroc.
Ouais, mais c'est rare qu'on ait besoin d'attendre le troisième jour pour vraiment rentrer avec une grosse équipe.
Le pays hôte, normalement, c'est quand même avec un gros pays.
Et là, on en est au troisième match. Là, ça y est, t'as envie de voir des gros joueurs, t'as envie de voir des grosses sélections, t'as envie que ça s'affole un peu.
Il y a quand même quelque chose qu'on va retrouver sur toute la compétition, et on en parle souvent avec Maxime Chano qui peut en attester. C'est le fait que il y a plus d'équipes qui sont pas organisées, qui ont un petit staff. Aujourd'hui, toutes les équipes ont 10, 15, 20 personnes autour de l'équipe nationale. Ça travaille bien. Il y a des centres techniques nationaux. Alors, à des étages, il y a des niveaux différents. Mais tu vois quand même, que ce soit hier, bien sûr, la Corée du Sud qui travaille dans la formation déjà très bien, à l'image de ce que fait le Japon depuis leur Coupe du Monde, peut-être en 2002, je ne me rappelais pas trop avant. Mais aujourd'hui, quand tu vois la Bosnie, quand tu vois le Canada ou quand tu vois les deux pays d'hier, tu as quand même de l'intensité. Il y a beaucoup d'intensité, ça court. En plus, les nouvelles règles, et ça, il faudra en parler aussi, les nouvelles règles qui empêchent de prendre du temps pour faire les touches. Alors, on en parlait avec Daniel.
Alors
Daniel, ça lui plaît moins.
Parce qu'en fait, moi, bon, de toute
c'est
façon,
culturel.
Je sais, exactement. Moi, je sais qu'on va vers un foot standardisé, où il faut avoir les mêmes réflexes, on peut plus perdre de temps, on peut plus faire de fautes, puisque Flo parlait tout à l'heure du vice, ça fait partie un peu de nous, de notre éducation au foot, où on aimait bien, enfin moi j'ai toujours aimé, moi j'adore les différences culturelles en général, et j'aime pas qu'on standardise les gens, j'aime bien pouvoir dire un tel il réagit comme ça, parce que c'est son histoire, parce que c'est sa culture, parce que c'est comme ça, et moi, bah oui, sur le terrain, le mec qui perd du temps, le mec, pardon, à un moment on l'a vu l'action, ça nous a fait marrer, Kolasinac, qui a beaucoup de mal sur le côté, à un moment le Canadien vient lui mettre un gros pressing, il tombe façon Gabi Ainsoo il y a 20 ans, ok, pas de problème, fais-le mon vieux, fais-le, t'as le vice, ça fait partie
c'est
du
plus
foot.
Possible.
Moi
l'arbitre
j'aime
vient,
ça.
L'arbitre vient
j'aime
tout de suite
ça.
Et lui demande
là
de se relever.
Non, il parle pas la même action là, il parle près du poteau de corner, ouais, quand en fait il vient chercher une faute.
En gros la fameuse technique du cul en arrière.
Parce que Barco maîtrise à merveille par exemple.
Ça rend fou, c'est un truc argentin, ça par exemple c'est très...
Ça me rend fou ça moi.
Mais oui, mais moi j'aime ça. Ça doit te rendre fou, mais le fait que ça te rende fou, c'est ça le football. Le football c'est que l'on doit jouer avec les règles. Et moi si j'ai un Kevin Diaz, ça énerve. Moi je dis c'est ça c'est la particularité du foot, c'est que Flo il a une réaction devant la télé et toi t'en es une autre.
Oui,
c'est ça le
foot.
Il
y a pas de problème.
On ne peut
pas
avoir mais ça en fait la mentalité américaine c'est qu'on pense pareil. La règle c'est la même et on standardise.
Non, c'est pas
moi
vrai.
Je déteste ça.
C'est pas vrai.
On doit pouvoir avoir des sentiments différents.
Non, attends,
top pub et on revient et on continue le débat et on le conclut avant de parler de l'équipe de France. L'after est là jusqu'à 2h du matin ce soir
moi,
et ensuite la nuit de l'after continuera
ça me plaît.
Avec le match États-Unis Paraguay. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h24 en France, il est 17h24 ici aux États-Unis dans le studio américain de l'Afterfoot avec Florent Gautreau, Daniel Riolo et Kevin Diaz. Avant de parler de l'équipe de France et de rejoindre Florent Germain qui lui est à Boston, un dernier mot sur ce match, juste dire un petit mot de Kolasinac quand même qu'on retrouve.
Attends,
là
Gilbert, juste
et qui a fait quand il a fait son espèce de sauvetage sans faire exprès où il met le ballon sur la barre.
Non, il a pas fait exprès, c'est qu'il a essayé de sauver le ballon, il a eu la chance, ça il sur la barre.
On peut dire qu'il a châté l'action.
Ça m'a rappelé Tottenham. Kolasinac, c'est
Non mais
Tottenham.
Juste un mot sur le défenseur.
Il est capitaine de la Bosnie, on l'a beaucoup vu.
Je veux revenir juste sur le dernier débat là, sur ce que disait Daniel sur le vice et sur les différences culturelles et sur le fait que ça existe dans le foot. Moi, ça me dérange pas ce qu'a fait Kolasinac par exemple sur ça. En revanche, je suis aussi d'accord avec la FIFA et les arbitres pour dire que si un mec reste pendant 3 fois de suite 50 secondes, tu le sortes et là. Et ça empêche les joueurs de faire ce genre de
d'anti-jeu. Ça me gêne pas.
Non, mais là t'abuses. Parce que quand les Bosniens l'ont fait à l'Italie, ça devait te gêner aussi.
Ils l'ont pas fait, ça me gêne pas.
Si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait.
Je voulais dire,
le foot a toujours une composante de vice. C'est la particularité de ce sport.
C'est pas la question du vice.
C'est la composante de ce sport.
J'en ai parlé avec un arbitre. Enfin, avec même des arbitres.
T'en fous, moi, de la vie d'arbitre.
Et non. Le problème, c'est que les arbitres, on leur demande de favoriser la défense dans ce genre de. C'est-à-dire, le gars, il protège sa balle, il fait semblant. Allez, donne-lui le 6 mètres ou alors donne-lui une faute. Mais non, c'est pas bon. Je suis désolé. Et tu sais pourquoi on demande de favoriser
dans
les arbitres?
Dans le foot, on joue avec le règlement.
Finir. Tu sais pourquoi on demande de favoriser les arbitres, notamment au niveau amateur? Est-ce que tu le sais?
Non, mais moi, je ne les critique pas, les arbitres.
Tu sais pourquoi on demande? Allez, c'est induit, on leur dit, allez, favoriser plutôt la défense. Est-ce que tu sais
pourquoi? Même chez les pros.
Réponds-moi, pourquoi au niveau amateur, on demande à l'arbitre de favoriser la défense? Parce que ils ne veulent pas qu'il y ait un but derrière et donc crée une échauffourée parce qu'il y a une erreur d'arbitrage.
C'est vrai.
Donc ça, c'est horrible. C'est en fait, donc donne l'avantage à la défense, même si le gars, on sait qu'il a fait, il a mitonné. Donne l'avantage à la défense, comme ça, tu ne seras pas en difficulté s'il y a un but derrière.
Allez, on passe à la suite.
Non, mais ça, c'est important.
Sur le temps effectif, quand même.
Les gars, s'il vous plaît.
Non, mais le match, le jeu, c'est quand même plus important. Je veux bien qu'on fasse preuve de vice. Mais si tu as 26 minutes de temps effectif versus 34, c'est pas le même foot non plus.
Voilà pour ce match. Et puis, je note aussi quand même à Toronto, stade plein, belle ambiance, stade tout rouge et tout. C'est magnifique.
Super. Et très beau stade avec tribune toute proche. Ouais. J'ai beaucoup aimé.
Très beau stade. Mais de toute façon, les stades, c'est ça qui est sympa dans cette Coupe du Monde, c'est qu'on a à chaque fois des environnements différents, des couleurs différentes, des lumières différentes et souvent des stades architecturalement assez étonnants. Et encore, on n'en a pas vu beaucoup pour l'instant. Florent Germain, qui lui est un spécialiste de Kolasinac, puisque évidemment.
Kolasinac l'a fait pleurer un soir de Ligue des Champions, dernier match de poule Tottenham.
J'ai cité le match contre Tottenham.
Et on était là-bas d'ailleurs.
Je commentais le match entre le Canada et la Bosnie, et j'ai eu le même réflexe que toi, mon cher Gilbert. Salut à tous.
Salut. Voilà, c'est un peu bon. Kolasinac, d'ailleurs, il est assez bizarre. Il a l'impression qu'il ressemble pas à un
footballeur. Il a fait un bon match,
mais il a coûté l'égalisation à son pays.
Oui, mais il couvre de façon horrible.
C'est horrible de couvrir.
Il
est un mètre derrière sa défense, c'est horrible.
Bon, l'équipe de France, il s'est passé quoi aujourd'hui à Boston, Florent?
Il s'est passé une conférence de presse de Jean-Philippe Mateta et de Lucas Hernandez. Il n'y a pas eu de déclaration fracassante, loin de là. Et par contre, il y a un enseignement lié à l'entraînement. C'est qu'il y a eu trois joueurs préservés. Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni par précaution, sans qu'on ait encore plus de précision, et William Saliba. C'est pas la première fois que William Saliba ne participe pas à la séance.
Toujours c'était également
le cas hier. Donc effectivement, on est très prudent par rapport à son dos, et je dirais même qu'on commence aussi à être vigilant. Est-ce que il faut être inquiet? Il y a de la gestion du staff par rapport à son cas, mais c'est une réalité. Il avait été sorti à la mi-temps, rappelez-vous, contre l'Irlande du Nord lors du match amical. Il faut un plan B au cas où William Saliba n'est pas à 100%, et ça semblait être le cas déjà lors du match amical contre l'Irlande du Nord. Et le fait qu'il soit à nouveau préservé sur ce début d'entraînement, bon, ça, on peut commencer à se dire est-ce qu'il sera vraiment à 100% pour le match contre le Sénégal.
Vrai enjeu, parce qu'effectivement l'un des points de solidité, c'est vraiment cette charnière là avec Saliba titulaire. Donc effectivement, on voit qu'ils font tout pour qu'il soit, ils le préservent. Mais ce sujet-là, on va en reparler à mon avis, parce que même s'il joue, il n'est pas impossible que derrière il soit obligé de s'arrêter. Et t'as vu que ça oblige à décaler en plus au Upamecano. Enfin, c'est ce qui a été fait l'autre jour. Donc déjà qu'il y a des soucis, on va dire, dans cette défense-là. Enfin, qu'on a déjà souligné cet enjeu-là là, dont parle Flo, il est important.
Bon alors, les gars, sachez-le, on a reçu le rapport complet de nos reporters. Les joueurs de l'équipe de France ont consigne de boire beaucoup d'eau, 6 litres par jour.
Entre 4 et 6 litres, voilà.
6 litres, c'est énorme.
Bah 6 litres, ça paraît énorme comme ça, mais quand tu te bois, je pense, on a bien regardé l'entraînement là avec les collègues, quand tu te bois, à mon avis, 1,5 litre, voire 2 litres sur ne serait-ce que la séance, parce que c'est vrai qu'il fait chaud et donc il faut s'hydrater, enfin tout ça est d'une évidence
litres,
basique.
Tu passes ta journée au chiasse en fait.
Ouais. Non.
Non, parce que quand tu sues, tu vas pas. T'as déjà remarqué ça?
Oui, c'est vrai.
T'as déjà remarqué que sur un match de tennis, parfois tu sors pas du cours pour aller faire pipi pendant 2h30?
Je sais que tu veux pas qu'on exagère trop, Daniel, avec le climat, hein, ce qui est logique, mais il y a un taux d'humidité à Boston qui est un peu plus élevé qu'ailleurs.
Le taux d'humidité, c'est important de souligner.
Qui est entre 60 et 65%. Donc, c'est un paramètre. C'est vrai que tu fais le moindre effort, ça dégouline, donc la sueur fait que tu dois t'hydrater. Donc, il y a eu une réunion là-dessus. Le staff prend cela très au sérieux et c'est vrai que la recommandation c'est de boire entre 4 et 6 litres d'eau par jour.
Bon, tu peux aussi mettre tu peux aussi mettre des trucs dans tes bouteilles d'eau, c'est-à-dire des sels minéraux, des choses qui te permettent d'avoir une meilleure hydratation.
On démarre le débat du Doué-Barcola. On va accueillir Farid au 32-16 d'ailleurs dans quelques instants. Il semble donc, et Fabrice Hawkins, vous retrouvez un long papier sur rmcsport.fr, que donc il y aura un sacrifié, puisque la tendance reste quand même de jouer à 4 attaquants.
Ah, tu peux pas mettre les deux. Hein.
Voilà, contre le Sénégal. Donc, qui sera le sacrifié? Votre avis, les gars, c'est deux gars qui ont des profils assez différents. Ce que dit Fabrice, c'est que Doué, en fait, a marqué des points contre l'Irlande du Nord.
Voilà, en tout cas, qu'il n'en a absolument pas perdu. Et que ce serait faux de dire que Doué, bon, et d'ailleurs, on était au match, enfin, où on l'a regardé. Moi, on n'a pas trouvé que Doué avait fait un mauvais match, loin de là, contre l'Irlande du Nord. Donc, le staff est content de désirer Doué. Ce sont deux profils différents, parce que je ne vais pas vous apprendre qu'un Barcola va plus être précieux dans un match où il peut débouler, prendre les espaces et profiter de sa vitesse. Là où désirer Doué est très précieux. Dans aussi sa capacité à percuter, à être efficace et aussi à avoir une certaine caisse physique. Et ça plaît beaucoup à Didier Deschamps, parce que on rappelait ça, la stat assez impressionnante des 15 kilomètres parcourus pour un jeune joueur là dans une finale de Ligue des Champions, un match à haute intensité. Ça prouve bien qu'il en a sous la semelle, Désiré Doué. Et alors que Didier Deschamps demande à ses joueurs, auquel côté offensif on le garde, mais par contre les gars, il faut qu'on fasse tous les efforts, notamment sur les côtés, et Désiré Doué, il a ce profil-là. Donc, il a un temps d'avance.
C'est pour ça que je ne comprends pas
c'est
trop.
C'est ce qu'écrit aussi Fabrice dans son article.
On se pose la question et qu'on ait un débat. C'est-à-dire, pourquoi Didier Deschamps ferait quelque chose de différent par rapport à ce que fait Lucien Riquet en club? Le titulaire, c'est Doué. Enfin, maintenant, en équipe de France, il faut quand même préciser ça en préambule. Doué et Barcola en équipe de France, c'est zéro référence. Donc, c'est leur première compète. C'est maintenant qu'il va falloir prouver quelque chose. T'en as un qui est en pleine confiance, qui est titulaire, qui est présent sur tous les grands matchs de Ligue des Champions, qui présente les caractéristiques que tu viens de décrire, qui sont donc absolument parfaites pour l'équipe de France, qui en plus maintenant veut jouer avec 4 joueurs offensifs. Donc, on n'est plus dans une config où t'aurais pu jouer bloc bas et avoir une nécessité d'espace qui aurait peut-être plus permis à Barcola de briller. Bah, je vois pas pourquoi tu penses mettre et pourquoi il y a un débat et pourquoi on mettrait Barcola
parce que Doué, un petit peu à l'image de Cherki, il est un peu moins Deschamps compatible que Barcola.
Pas du tout, il court énormément.
Laisse-moi parler. Moi je pense que moi j'aurais mis Doué, pas de souci, mais lui, pourquoi il pense à mettre Barcola? Parce que Barcola, c'est
qui t'a dit qu'il y pense?
Bah, on vient de dire que c'est l'un ou l'autre.
Bah non, moi je crois Flo vient de te dire c'est Doué qui tient la corde.
Non, oui, on dit que Doué garde une vraie longueur d'avance par rapport à.
Oui, mais
à
il réfléchit quand même à Barcola.
Il a une vraie longueur d'avance.
Mais tu veux que c'est l'alternative, voilà.
Voilà, bah, l'alternative elle est claire, c'est la vitesse de Barcola, les transitions, c'est.
Pourquoi Doué il a une charrette?
Mais non, mais Barcola c'est un des joueurs les plus rapides peut-être aujourd'hui.
OK, mais bon.
Bah bien sûr qu'avec Mbappé, il est extraordinairement rapide. Okay. Moi, je te le dis. Donc, il a quand même mis souvent des joueurs comme Kolo Muani, notre ami Didier Deschamps, hein, il avait au milieu de terrain Sissoko, c'était pas parce que
Kolo Muani, c'est pas un mec super rapide, non?
Kolo Muani, mais bien sûr que si. Kolo Muani, c'est un joueur ultra rapide.
Bah je trouve pas, moi.
Bah je te dis que si. Bah tu te trompes. Moi je pense que.
Et quand il le mettait, enfin le peu qu'il l'a mis,
c'était souvent pour les phases de transition.
Non, c'était faute de mieux.
Oui, mais peu
c'était
importe.
De mieux.
Il a quand même très
là,
souvent joué.
Il a jamais eu là comme il a sous la main des joueurs à la fois techniques, rapide, non mais, capable de faire plein de choses.
Le jeu donc, de Deschamps, tu veux qu'il mette quelqu'un bloc médian bas, on contre avec des flèches.
Dans un instant, l'avis de Florent. En gros, tu fais
de la contradiction pour dire qu'au final, tu mettrais Doué toi aussi. Donc ça sert à quoi?
Je parle de
Florent. Dans un instant, le débat continue. Florent.
Barcola et de Deschamps.
Farid avec nous également. Et évidemment, on attend vos appels au 32-16, vos messages sur WhatsApp. On parlera aussi de Dembélé et de Lucas Hernandez qui sont venus défendre Kylian Mbappé aujourd'hui. Je vous raconte ça dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
23h38 en France, 17h38 ici aux États-Unis dans le studio américain de l'After avec Kevin Diaz, Florent Gautreau, Daniel Riello, Florent Germain qui lui est en direct de Boston. Il suit l'équipe de France, bien sûr. On débat de l'éventualité Barcola ou Doué. Florent, t'as pas encore donné ton avis avant qu'on accueille Ferry le 32-16.
Non, et c'est vrai que c'est assez curieux parce que j'ai, de ce qu'on avait vu, comme disait Florent Germain sur le match là, dernier match de prépa, Doué pour moi a fait un très bon match et notamment dans la récup parce que pour le reste, évidemment, on connaît, mais effectivement, dans tout ce qui est récup, c'était très très intéressant. Après, le seul truc qui pourrait présider à une réflexion, même si effectivement on est dans l'hypothèse,
présider une réflexion,
ouais, c'est le fait que tu es sur une équipe qui va être plus protagoniste que l'Irlande du Nord et que donc les phases de transition, évidemment, tu peux estimer qu'avec un Barcola, comme disait Kevin, sur sa vitesse, tu peux en profiter encore plus. Je dis juste ça de manière purement hypothétique par rapport au fait que la compo de l'Irlande du Nord, normalement, on disait, Flo, tu me corriges si je dis une bêtise, que c'était plus ou moins la compo qui allait être celle du 16 juin contre le Sénégal. Donc, le seul truc, c'est qu'effectivement, si Deschamps était plus, on va dire, imprévisible, dans l'imprévisibilité d'une compo, ce qu'il n'est pas, tu vois, eh ben il pourrait très bien faire une surprise entre guillemets en mettant un Barcola et en balançant du Barcola dans les transitions contre le Sénégal.
En tout cas, une chose est certaine, c'est que le match de demain, il est très important. Alors forcément, on dit oui, bah c'est n'a pas les stats de dire qu'il faut bien démarrer, mais là d'autant plus
avec demain.
Lequel match de mardi.
Le premier match de mardi pour l'équipe de France, le premier match de cette Coupe du Monde. Bien sûr qu'il faut bien démarrer, mais surtout dans le contexte actuel avec les petits débats, les polémiques carrément sur le poste de Kylian Mbappé, pas le poste de Kylian Mbappé. Les quatre attaquants, pas les quatre attaquants, la défense, est-ce qu'elle est friable ou pas? Bon, il y a quand même l'info de Walid hier qui dit lui, il a entendu dire que Mbappé n'était pas du tout contre. Il a pas dit qu'il voulait jouer à gauche. Il a dit qu'il n'était pas contre le fait de jouer à gauche et que c'est Deschamps qui veut absolument qu'il joue en pointe, notamment pour les équilibres défensifs. Mais si tu gagnes pas contre le Sénégal, il y a possibilité de changer tout. Hein. Tu repasses en 4-3-3, ça se trouve l'autre il va à gauche. Donc ce match, il est vraiment ultra important dans cette compétition.
Je pense qu'il y a un décompte, il y a un tic-tac. Sur je repasse au 4-3-3.
Ouais, moi, j'en suis convaincu depuis le début.
Tic-tac.
Les joueurs le savent, Gilbert
Germain.
Non, mais les joueurs le savent et comme eux, pour la plupart, veulent rester à 4 avec ce quatuor, c'est l'une des raisons qui peuvent expliquer qu'ils vont
se battre
et normalement faire les efforts. Mais oui, parce que ils savent qu'il y a ces débats-là et que Deschamps, il y a une qualité qu'on peut pas lui enlever, c'est que il est tellement compétiteur qu'il va pas mettre 3 matchs à se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas dès qu'il rentre dans une compétition, notamment une Coupe du Monde. Si ça va pas, tant pis les gars, on n'a pas le temps. Il y a urgence, on change. Donc les joueurs en sont conscients et normalement ça présage de certains efforts dès le match initial contre le Sénégal. Après, c'est pas dit que ça marche à 100%.
Mais pardonnez-moi, mais moi c'est toute la réflexion que je comprends pas.
Qu'est-ce que tu comprends pas?
Bah, pourquoi, en gros, ça serait mieux de démarrer avec 4? Pourquoi ça ferait plus plaisir aux joueurs? Parce que visiblement, en gros, les joueurs doivent répondre présent en disant « Regardez ce qu'on est capable de faire si on joue à 4 comme ça. » En fait, pourquoi?
Ouais, je suis d'accord.
Pour le groupe, après tout, qu'il y a un milieu de terrain de plus, c'est quoi? En gros, on trouve ça plus sympa que Doué joue plutôt que Manu Koné?
Ça permet de ménager les égos des joueurs offensifs.
Les milieux de terrain, ils n'existent pas, ils n'ont pas le droit d'exister.
En fait, c'est toute la réflexion. C'est que Doué, il peut jouer au milieu.
Oui, bah alors là, ça ferait 5, t'imagines?
Non, il peut jouer au milieu dans les 4, mais en tant que milieu de terrain numéro 8.
Toute la réflexion, je ne comprends pas depuis le début pourquoi Didier Deschamps changerait son ADN, pourquoi il voudrait nous convaincre qu'il va y arriver avec 4. C'est quoi?
Bah, la raison, c'est le storytelling de, ce, de, oui. de ça et des quatre offensives. C'est de dire. Non, mais attends, je termine juste. C'est de dire, sur ma dernière compète, je veux tactiquement séduire et arriver à montrer qu'avec un football offensif et quatre offensives, je peux y arriver. Je ne dis pas qu'il a raison.
Non, mais d'accord. Mais
j'utilise mon matériel.
Tu seras alors que ça fait 15 ans qu'il lui dit qu'il s'en fout de séduire, qu'il veut gagner.
Voilà. Mais donc,
peut-être alors, c'est une déjà, erreur. C'est ce que
premier
je dis.
Point, non, mais, premier point, Gilbert. Mon point 1, c'est ce qu'il dit.
J'ai juste dit depuis longtemps, depuis une semaine, je pense que c'est un piège dans lequel il s'est lui-même un peu enfermé. Mais je lui donne le crédit. Qui tente son coup.
Premier point, celui de Gilbert, je ne le répète pas. Deuxième point, le PSG joue avec quatre attaquants.
Non.
C'est un beau football ou c'est pas un beau football?
Oui, mais ils ont des latéraux. Oui, mais en fait.
Donc on parle d'un autre football, c'est ce que tu vas dire.
Ils ont d'autres pistes de terrain que ceux de l'équipe de France.
Ok, donc c'est autre chose, c'est tout ce que tu veux. D'accord, on est d'accord.
D'autres latéraux.
Donc, mais qui va pouvoir nous expliquer que tu joues forcément mieux si t'as quatre joueurs offensifs, toute l'histoire du foot montre que c'est pas vrai.
Ce que tu dis, c'est très
juste. Donc, en gros, sur quoi repose la réflexion du débat?
La réflexion, elle repose au fait que les joueurs qui sont dans Squad Wars se sentent épanouis, Daniel.
Ça fait. Ils se sentent épanouis, et si ça marche pas.
Dembélé peut pas se sentir épanoui, Flo.
Mais déjà, est-ce que ça marche pas, déjà? T'en es convaincu de ça?
Dembélé,
ou est-ce qu'on aura la réponse déjà en ce début de Coupe du Monde, vraiment, Flo, avec l'adrénaline de la compétition? Non, pourquoi on affirme maintenant que ça marche pas, en fait? Moi, j'ai juste dit que les joueurs se sentaient épanouis, les joueurs offensifs, dans ce système à 4.
Pourquoi ça serait les joueurs offensifs à qui il faudrait faire une espèce de fleur?
Ah, oui, après, oui.
Flo, on n'a pas dit que ça ne marche pas. On a dit qu'à date, il y a un des quatre qui n'est pas heureux dans ce système. Je parle footballistiquement, je ne parle pas dans le temps pour les joueurs. Et Dembélé, c'est tout. T'as raison, peut-être qu'ils l'ont dit eux-mêmes. On va essayer de montrer qu'on est capable d'eux. Ok, mais moi je dis juste que tactiquement.
Mais Dembélé, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est pas heureux?
Non, mais là, dans le match qu'il a fait contre Arsenal,
il semble pas épanoui footballistiquement.
Non, mais excuse-moi, mais de toute façon, quand bien même, imagine, t'enlèves Mbappé. Tu
le mets. Pas d'enlever Mbappé.
Non, mais. C'est un exemple, une hypothèse. Tu l'enlèves et tu mets Dembélé, Olysée et j'en sais rien, Doué. Que tu es sûr qu'il va s'épanouir, Dembélé? Ça joue pas comme le PSG. C'est pas les mêmes milieux de terrain. C'est pas le même pressing.
C'est pour ça que
c'est pas le même contre-pressing. Qu'est-ce que t'en sais qui sera épanoui et qui jouera le même football?
C'est pour ça que.
C'est pour ça qu'en fait tous ces débats, j'ai du mal à les comprendre, moi.
Bah moi je pense que.
Attendons de voir ce que ça va donner. Attendons de voir l'animation. En plus, on sait que Deschamps il a du mal à travailler les animations offensives.
Non, c'est pas qu'il a du mal, c'est qu'il sait pas faire.
Bon, ok, si tu veux, c'est ton libre arbitre et je peux te suivre parce que son football c'est aussi celui d'une réflexion qui pourrait être proche d'Allegri et de dire. L'important, c'est le bloc, la façon dont est animé le bloc défensif.
Mais il le dit lui-même.
Et devant, il y a une certaine liberté pour les joueurs. Pourquoi pas? C'est un football qui lui a permis d'être champion du monde et finaliste. Et pour diriger une sélection, Didier Deschamps, il fait partie des grands de notre football, même si j'aime pas ce style. Mais il faut quand même reconnaître ça. Donc demain, me dire, il est pas épanoui Dembélé et tout, je suis pas d'accord. Parce que rien ne me dit qu'il serait épanoui avec un autre. Simplement, le jeu n'est pas le même.
Dans un instant, on conclut ce débat, on aura Farid au 32-16. Et puis, on écoutera Dembélé et Théo Hernandez, on écoutera. Je vous relayerai Dembélé et Lucas Hernandez qui défendent Kylian Mbappé. Florent, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on se retrouve très vite, bien sûr, en montant en puissance avec l'équipe.
Intéressant
de
Dembélé dans Marca. C'est vrai que ça vaut le coup d'en débattre parce qu'il a volé au secours du capitaine.
Oui, on a l'impression que c'est un peu un mot d'ordre là. On va détailler ça dans quelques instants.
Faut sauver le soldat Mbappé.
Faut sauver, non. Soutenir en tout cas le soldat Mbappé. Allez, à tout de suite dans l'after.
Ciao.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h48. En France, 17h48 ici en Amérique du Nord, dans le studio de New York, New Yorkais de l'After. Daniel Riello est là, Kevin Diaz, Florent Gautreau, on est là jusqu'à 2h du matin avant la nuit de l'After qui continuera avec Karine Galli et le match États-Unis Paraguay cette nuit. Alors, pour conclure sur ce débat Doué Barcola, on a Farid au 32-16 qui est là. Farid, bonsoir.
Bonsoir les gars.
Farid, tu nous as écouté les arguments des uns et des autres. Fais jouer qui?
Vous, le débat, c'est sur l'ensemble de la compétition ou pour le match d'ouverture contre le Sénégal?
Le problème, c'est que si le match d'ouverture contre le Sénégal se passe bien, ça peut être pour l'ensemble de la compétition. Parce qu'en général, quand Deschamps trouve une équipe, il n'y a pas trop de raison pour qu'il la change.
Ce qui, en gros, historiquement et récemment, n'arrive jamais. L'équipe qui démarre n'est pas celle qui va loin après dans la compétition. C'est toujours beaucoup de changements et toujours beaucoup de formules qui changent.
C'est comme si la première recette du cuistot, il sait qu'elle ne va pas être forcément bonne, mais il sait qu'il l'améliorera après, quoi.
Exactement. Alors, Farid.
En fait, sur les profils, vous avez très bien défini les profils. Je pense que le profil Doué, il sera plus utile pour si le Sénégal décide de jouer, en bloc couverture où il faut un impact direct dans le duel pour éliminer son premier vis-à-vis et créer un espace derrière. C'est vrai que là, Doué, ce qu'on résume un peu par le jeu de petit espace, sera supérieur à Barcola, je pense. Mais ensuite, si en face, on a une équipe du Sénégal qui se présente en bloc à plat, qui laisse un espace derrière le dos de la défense, le style... Donc, en fait, c'est deux joueurs qui peuvent se partager le temps de jeu suivant le déroulé du match, suivant
le score
du match, les espaces.
Mais bien sûr. Si par exemple la France ouvre,
c'est ce genre de débat. À chaque fois, je pense à Roland Courbis qui nous aurait dit on joue à 15.
Il avait pas tort. Après Farid,
non, on joue à plus de 15.
Farid, juste un truc sur le score. La France ouvre le score. Derrière, le Sénégal monte et veut attaquer et joue haut. Et effectivement, Barcola derrière.
C'est pas certain.
C'est pas certain.
1-0, c'est Sénégal. Pas certain que le Sénégal se découvre encore.
Ah bon? Ouais, bah alors, c'est compliqué pour eux, alors. S'ils se découvrent pas,
1-0, c'est un dernier changement et 1-0, c'est.
Mais Farid, on est quand même d'accord que ce débat, qui nous est pour moi imposé par Didier Deschamps, c'est un débat qui est assez pauvre. Parce qu'en fait, on a beau parler de quatre attaquants, pas quatre attaquants. Ce que disait Daniel, c'est très juste. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il joue pas avec quatre attaquants. Et pourtant, c'est la meilleure équipe du monde.
Donc,
non, mais je veux te dire que pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est un très bon. C'est un très bon débat puisque l'animation ne dépend pas du nombre de joueurs offensifs. Le PSG, quand ils attaquent, ils attaquent pas à 4, ni à 3, ni à 5, ils attaquent à 11, en fait. Même le gardien, il est là pour attaquer. Il sort de sa surface, il est là pour déjà anticiper une éventuelle perte. Donc aujourd'hui, moi je suis désolé, mais c'est la pauvresse du jeu de Deschamps depuis 16 ans qui nous oblige de se dire est-ce qu'on va jouer à 3 ou 4 attaquants parce qu'on a l'impression que les autres n'attaquent même pas. Alors que bon, si tu mets
Pauvreté, je sais que tu parles couramment 12 langues, mais.
Sorry. Mais c'est vrai que la pauvreté de cette attaque, de cette animation, fait qu'aujourd'hui tu parles même pas de Théo Hernandez, mais s'il est là c'est pour attaquer, c'est pas pour défendre. C'est un gars qui défend très mal.
Bon, passons à Mbappé. Pourquoi? Parce que donc Ousmane Dembélé a donné une interview dans Marca. Donc on lui dit comment est-ce que vous voyez Kylian Mbappé après cette saison et tout, et il prend la défense de Kylian Mbappé. Il dit tout est exagéré à propos de lui, il faut se calmer, en gros il y a pas lieu d'être aussi dur avec lui, qu'il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte sa chaussette ou pas, qu'il mette son maillot ou pas, c'est excessif, ça reste un être humain et un joueur exceptionnel. Et par ailleurs, Lucas Hernandez aujourd'hui dit également, je cite, ce n'est jamais facile d'être Mbappé. Alors le spécialiste de la communication, Florent Gautreau, nous dirait, là, il y a peut-être eu un élément de langage, sorti un peu calculé, en mode, on a quand même besoin que tout le monde fasse l'union derrière notre capitaine, et qu'on arrête à chaque fois de le montrer du doigt et de faire comme s'il était la cause de tous les problèmes.
Oui, ça, je te confirme, parce que là, apparemment, dans toutes les prises de parole, et c'est pas les seules, il y a effectivement la volonté d'être au soutien de Mbappé. Après, il y a une question qui se pose justement, c'est intéressant, sur Dembélé. Parce que Dembélé, quelque part, il a, entre guillemets, profité du départ de Mbappé pour s'imposer vraiment comme la star du PSG et aller prendre son ballon d'or, entre autres. Il n'y a pas que ça comme raison. Et que là, il se retrouve avec Mbappé et qu'il a décidé de jouer pour l'instant, je parle dans la com, hein, le lieutenant loyal, quoi, tu vois, de rester dans cette config-là, qui n'est pas celle qu'il connaît au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc, effectivement, comme tu le dis, je pense qu'il y a élément de langage ou pas, il y a en tout cas une tonalité qui est de dire d'être au soutien. Et Mbappé lui-même essaie de renvoyer la balle, si tu veux, en donnant des satisfaits à tous ses coéquipiers et en jouant un peu le daron de l'équipe. Bon, pourquoi pas.
Moi, quand même. D'abord, on parle de Dembélé, qui est un de ses meilleurs potes. Donc déjà, dire qu'il sort pour le défendre ou quoi, ok, c'est tout à fait normal. Ils sont amis. Et demain, dans l'équipe, Mbappé fait une espèce d'interview où il passe en revue les joueurs, où il les présente, en gros, ses coéquipiers. Il dit qu'il parle tous les jours à Dembélé. Ils sont amis depuis longtemps. Donc, loyauté, fidélité, quand t'es ami, c'est la moindre des choses. Et en plus, ils sont coéquipiers. On va pas répéter tous les jours que ce qui se passe en club, ce qui se passe en sélection, c'est complètement différent. À ce jour, en équipe de France, il n'y a jamais eu le moindre problème autour de Mbappé, qui a toujours été bon et important pour les Bleus. Et même quand il a été moins bon, les autres étaient encore moins bons. Donc son rôle de leader, son rôle de d'homme fort des Bleus, il est absolument incontestable. Jusqu'à preuve du contraire, si demain il se passe des choses différentes, si l'équipe de France n'avance pas, qu'on constate qu'il y a un problème, on parlera du problème. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc dire que les mecs viennent régler, ou non, ils ne règlent pas. Ils viennent au soutien de leur attaquant, mais de façon, de leur capitaine, de façon totalement légitime. Que pourrait-il faire d'autre ? C'est le gars, pour l'instant, qui est le meilleur en bleu. Si un jour cette solution évolue, que Dembélé devient l'homme fort des Bleus, pour l'instant, Dembélé, c'est une star, le ballon d'or, le meilleur joueur du PSG, tout ce que tu veux, en club, pas en sélection. Dembélé en sélection, il n'y a rien eu pour l'instant. Olysée, il n'y a rien eu. Doué, il n'y a rien eu. Tous les autres, il n'y a rien eu. Ils sont tous très loin derrière en termes de vécu, de passé. Bon, ben, c'est tout à fait normal ce qu'on voit. Donc, il n'y a pas de problème Mbappé, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ça évolue. Je sais que visiblement, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'attendre qu'il y ait des problèmes. Il va dans Marca. Est-ce que, oui, probablement que bon, ben là, c'est pour public espagnol, vu la saison qui s'est passée, vu les critiques qu'il a dû essuyer. Mais par ailleurs, il a quand même été élu meilleur joueur du Real par les supporters du Real. Donc là encore, c'est très 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 compliqué ce qui se passe, hein, dans cette ambiance entre mélange de réseaux sociaux, de news, de fake news, de contre-news. Bon, il y a probablement que cette ambiance lui pèse à Mbappé, et que voir ses coéquipiers dans des interviews soutenir le capitaine et leur coéquipier qui par ailleurs est un pote, je trouve ça tout à fait normal. Dans votre vie quotidienne, vous feriez la même chose. C'est normal que eux le fassent, surtout avant le premier match d'une Coupe du Monde.
Moi, en
où
tout
la
cas,
France,
Daniel,
est très ambitieuse.
Je vais te dire, quand dans la rue, on me dit Daniel, dans la vie, il est comme à l'antenne, il coupe la parole à tout le monde, il râle et tout, je te défends.
Ouais, mais tu peux dire aussi que c'est pas tu peux dire également aussi que c'est pas complètement faux. Tu as l'antenne, je suis un peu comme dans la vie.
Non, t'es beaucoup plus calme dans la vie qu'à l'antenne quand même.
Mais à l'antenne, je suis pas énervé, Kevin.
Non, t'es pas énervé, mais dans la vie, je t'ai rarement vu t'énerver quand même.
Non, tu coupes moins la parole au resto. Quand même.
Bien sûr, t'es beaucoup plus calme.
Surtout si tu mets une pizza.
Ouais.
Quand tu manges,
encore faut-il qu'elle soit bonne, sinon il va râler beaucoup.
Ouais, voilà.
Bon, alors Flo, ton avis à toi.
Non, moi je pense qu'il y a quand même, il y a toujours une stratégie. Il faut pas croire qu'il y a pas de stratégie. Il y a certes de l'amitié, mais je veux dire que là, l'histoire du choix des médias, comme tu le dis, c'est pas anodin.
Oui,
évidemment, public espagnol, mais effectivement, ça dénote une bonne entente et il y a pas à trouver de loup là-dedans. Moi, ce qui me gêne un petit peu plus dans la com, la globale de Mbappé, enfin ponctuelle, c'est cette histoire de demain là, de je liste les joueurs et je donne un petit truc. Je veux dire par là qu'il est en train de surjouer un petit peu, même s'il l'est, hein, il est le capitaine, le daron de l'équipe, tu sais, il a beaucoup parlé de l'expérience, tu sais qu'il a,
il a plus de 17 ans.
Ce que je veux te dire, c'est que.
T'as remarqué quand même qu'on a une équipe. Enfin, on a une équipe d'adolescents quand même.
Non, mais je suis d'accord.
En 98, par exemple, on avait une équipe de darons. Des gars qui étaient pères de famille et tout. Okay. Aujourd'hui, t'as une équipe d'adolescents. Ça c'est un sujet qu'on pourra creuser un soir.
Je
veux juste te dire pour demain, effectivement, je pense qu'il surjoue un petit peu ce rôle-là parce qu'il n'est pas si vieux que ça, même si effectivement, maintenant, il a 28 ans. C'est ça, enfin il va sur ses 28
dans
ans.
Dans le foot, t'es un vieux.
Mais si tu veux, je pense qu'il surjoue un peu ce truc-là, comme il veut absolument endosser depuis plusieurs mois et avec la polémique qu'il y a eu avec Griezmann, ce brassard. Tout ça, c'est derrière lui. Mais je trouve que c'est un peu trop et que, par exemple, en termes de com, moi, j'aurais pas conseillé à Mbappé de faire le listing de ce coéquipier, parce que même quand ça se passe bien et même quand il est pote, tu verras que dans les citations qui sortent du truc, tu peux trouver matière chez des gens qui connaissent pas les relations entre les joueurs. À dire tiens, il se permet de juger, tiens, c'est un petit peu, c'est pas très très enthousiaste ou très optimiste ou très laudateur ce qu'il dit sur un tel ou un tel. Je trouve juste que pour moi, c'était pas un truc forcément à faire. C'est pas très grave, c'est pas l'affaire du siècle.
Alors, tu vas me répondre juste après la pub, Daniel. Et on peut développer un peu ce thème-là, c'est intéressant. Et ensuite, on va parler de Brésil-Maroc avec un joueur que vous avez peut-être perdu de vue, enfin un ancien joueur que vous avez peut-être perdu de vue, c'est Demetrius Ferreira, ancien latéral.
On a clairement perdu de vue.
De Marseille, de Bastia. Il sera en direct de Sao Paulo avec nous dans quelques minutes. On se retrouve tout de suite dans l'after. Il est quasiment minuit en France. On est là jusqu'à 2h du matin et après, la nuit de l'after continue avec États-Unis-Paraguay.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.